Vous écoutez France Culture.
Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Ceux qui visent à développer une chimie non linéaire pour la construction de nouveaux matériaux hybrides font partie de ce qu'on appelle la recherche à risque. À risque, certes, mais passionnante et source de nouvelles aventures scientifiques. Le voyage scientifique, c'est parcourir les routes de la science loin des autoroutes en empruntant les chemins buissonniers sans feuilles, oui, mais sans feuilles de route. Sans jalons, avec des doutes à chaque carrefour, car c'est bien sur le doute que se fonde la pensée scientifique. Le doute est une force motrice, d'autant plus que les mécanismes de construction des matériaux et systèmes hybrides multi-échelles sont complexes. Dans la complexité, il y a souvent plusieurs vérités. Toutes sont nécessaires. Clément Sanchez, leçon inaugurale, page 85. Clément Sanchez, vous êtes titulaire de la chaire chimie des matériaux hybrides depuis le 10 février 2011, date de votre leçon inaugurale au Collège de France. Vous dirigez le laboratoire chimie de la matière condensée et vous êtes membre de l'Académie des sciences. Avant donc de nous expliquer votre travail et ses enjeux, peut-être accepteriez-vous de nous dire quelques mots de votre parcours? Comment êtes-vous devenu le chimiste que vous êtes?
Oui, c'est... J'ai eu un parcours, je dirais, un petit peu atypique. En fait, bon, la chimie m'a intéressé relativement tôt, parce qu'il y avait toujours cette partie de construction, de créativité. Il y a un certain côté artistique, finalement.
Absolument,
dans la chimie.
Oui.
Et ça, c'est...
Il faut inventer.
C'est assez intéressant. Au niveau de mon parcours, je vous disais que j'avais eu un parcours un peu atypique, parce que, bon, vers l'âge de 17 ans, j'ai interrompu mes études, pour des raisons, je dirais, personnelles et familiales. Et donc, j'ai commencé à travailler en usine. Et donc, je n'avais pas à l'époque de diplôme important, je dirais. Donc, je faisais de la chimie organique, de la chimie également associée aux antibiotiques, également de l'ingénierie, mais du côté expérimental. Et en parallèle, j'ai commencé à faire toutes mes études en cours du soir.
Magnifique, hein.
Et
c'est donc, un parcours à la Bachelard.
Et donc, oui, c'est vrai que ce n'est pas le parcours habituel, en fait, que l'on rencontre. Et donc, j'ai gravi les différents échelons au niveau des diplômes, avec cet apprentissage, finalement, très expérimental. Et le soir, eh bien, je dirais qu'il y avait plutôt la partie théorique. Et le samedi également, bon, ça a été assez long. Et donc, j'ai gravi les différents échelons. Et à un moment, bon, juste après l'Institut universitaire de technologie d'Orsay, où je travaillais également la partie, je dirais, scolaire, mais à nouveau tout en travaillant, j'avais des résultats à l'époque scolaires qui n'étaient pas trop mauvais. Donc, on m'a proposé d'intégrer finalement l'École nationale supérieure de chimie, qui était la meilleure école de chimie en France, en tant qu'auditeur libre, c'est-à-dire à l'essai. Donc, je ne venais pas par le canal, je dirais, habituel. Et puis, finalement, ça a très, très bien marché. L'école a bien fonctionné. Et en sortant donc de l'école, j'avais beaucoup de propositions pour reprendre finalement un travail, bien sûr à un niveau totalement différent dans l'industrie, mais j'étais tout de suite très motivé par comprendre la recherche. Et j'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre de professeurs à l'école de chimie qui étaient vraiment d'excellents pédagogues et des très bons scientifiques. Je voudrais en citer essentiellement trois. Marc Julia en chimie organique. Tout le monde me pensait que j'allais finalement faire essentiellement une carrière dans la chimie organique. Robert Collomb, qui était quelqu'un d'absolument extraordinaire, ses cours étaient passionnants, c'était vraiment des histoires magnifiques. Et Jacques Livage, qui était également un très bon pédagogue. Et finalement, je me suis orienté vers la fin donc, de ses études, vers la carrière de chercheur.
Il était déjà au Collège de France?
Non. À l'époque, il était professeur à Paris 6. Il était jeune professeur et il démarrait tout juste son équipe. Ouais. Et donc, finalement, j'avais des propositions chez Marc Julia pour aller faire de l'organique, chez Jacques Livage pour aller faire du minéral. J'ai été séduit finalement par la proposition de Jacques Livage. En plus, c'était un petit laboratoire, c'était vraiment le démarrage, donc il y avait vraiment un challenge. Je me suis embarqué finalement dans l'expédition Livage. Et puis voilà, donc ensuite la thèse, le séjour aux États-Unis, comme la plupart des scientifiques. Et après, donc, tout de suite, dès que j'ai pu, j'ai mis de l'organique dans le minéral, puisque on me condamnait à être un organicien.
Là ou l'autre.
Voilà, et donc finalement, j'ai métissé assez vite les deux milieux. Et voilà, et donc ensuite, les choses se sont construites peu à peu avec, je pense, beaucoup de travail et de la passion surtout, parce que je pense que c'est vraiment la force motrice de nos évolutions.
Vous êtes chimiste des matériaux hybrides. Que veut dire hybride quand un chimiste emploie ce mot, Clément Sanchez ?
Oui, les matériaux hybrides, pour les décrire simplement, on pourrait dire que ce sont des composites. Mais en fait, les matériaux hybrides vont au-delà de composites. Les composites, en général, l'image qu'en a le grand public, ce sont des mélanges en fait, de matériaux différents. En fait, par exemple, du verre et un polymère, par exemple. Les matériaux hybrides sont des matériaux qui peuvent être vus comme des composites, mais où le maillage entre les différentes composantes se fait à une échelle beaucoup plus petite. À une échelle qui est l'échelle de la molécule ou l'échelle, j'irais, mésoscopique ou nanométrique.
Donc vous travaillez sur des nanomatériaux, c'est ça ?
Sur des nanomatériaux ou sur des matériaux nanostructurés.
Oui.
Mais également, je dirais, sur des matériaux, c'est ce qui est mentionné dans le texte que vous venez de lire, ce sont des matériaux qui sont développés et contrôlés, en fait, sur différentes échelles. C'est-à-dire qu'on les fabrique à partir d'objets de toute petite taille, molécules ou des nanoéléments, mais en fait, il faut quand même obtenir un matériau finalement manipulable par l'homme. Et donc, en fait, ces échelles-là sont les échelles macroscopiques. Et les aspects qui nous intéressent, c'est justement d'arriver à contrôler la gestion et de la construction de ces matériaux depuis la petite échelle, comme fait la nature. Hein. La nature utilise des systèmes moléculaires jusqu'à l'échelle macroscopique et avoir le contrôle des fonctions et de la structure à toutes ces échelles qui vont de l'échelle de l'angström, donc la molécule, à l'échelle du centimètre, voire au-delà. Et alors au niveau donc, des matériaux de synthèse, ce que l'on essaye de développer depuis quelques années, ce sont justement des matériaux où la hiérarchie en fait, est portée par les trous, par la porosité. Et on peut donc décrire des matériaux qui ont la taille d'un verre à boire, mais dont la structure, quand on la regarde avec des outils qui permettent de visualiser finalement la matière à des échelles différentes, est constituée par exemple de porosités qui sont millimétriques, puis submicroniques, puis nanométriques. Et ces matériaux peuvent être minéraux, totalement minéraux, mais également peuvent être justement grâce aux approches issues de la chimie douce, je dirais, peuvent être hybridés à une toute petite échelle.
Clément Sanchez, vous écrivez que vos objectifs sont de concevoir et d'élaborer des matériaux inorganiques et ou hybrides originaux pour développer des réponses innovantes aux préoccupations sociétales dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et de la médecine. Pouvez-vous nous donner des précisions ?
Oui, dans le domaine de l'énergie, il y a des équipes, de nombreuses équipes, dont la nôtre, qui travaillent par exemple sur de nouvelles cellules photovoltaïques qui associent justement des matériaux minéraux, en général des oxydes nanostructurés, mais dont les performances en fait sont améliorées ou exaltées par la présence de composantes organiques qui sont greffées sur ces matériaux de grande surface, et ça permet donc d'utiliser finalement l'énergie solaire pour la transformer soit en un composé chimique, de l'hydrogène par exemple, soit en courant. Donc ça, c'est un exemple qui touche au domaine de l'énergie. Le domaine de l'environnement, nos efforts ont essentiellement porté sur l'élaboration à nouveau de systèmes à structure hiérarchique ou multi-échelle pour la catalyse, c'est-à-dire pour faire des transformations de façon plus efficace, réaliser des économies d'atomes. Et nous avons développé, par exemple, en collaboration avec l'Institut français du pétrole, un certain nombre de catalyseurs qui nous ont donné lieu à peu près une vingtaine de brevets. Donc vous voyez, ce n'est pas que de la recherche fondamentale. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de comprendre, mais il n'empêche que cela peut être utile. Et donc dans le cadre de ce que je viens de citer, ça a donné lieu à une vingtaine de brevets, un peu plus de 20 brevets. Et en ce moment, les essais de développement en sont au niveau du pilote. On finit par médecine. Donc médecine, bon, il y a énormément d'aspects qui peuvent être développés en utilisant finalement l'hybridation, qui sont déjà développés. Je n'en citerai que quelques-uns. Par exemple, des biocatalyseurs qui permettent justement, en utilisant des enzymes gentiment incorporées à des petites échelles dans de la matière minérale, donc de ce fait-là, elles peuvent être plus stables ou plus réactives, de produire finalement des réactions qui sont catalysées par les systèmes biologiques. Il y a d'autres sujets qui sont vraiment des sujets encore dans leur enfance, au niveau des hybrides tout du moins, et ceci concerne les vecteurs thérapeutiques. Par exemple, pour le traitement contre
des
le cancer.
Oui.
Donc, en fait, il y a énormément...
Pour cibler une cellule particulière,
et là, il y a énormément d'équipes qui travaillent dans ce domaine, et nous en faisons partie. En particulier, nous essayons de développer des matériaux qui peuvent, évidemment, cibler de façon très sélective une tumeur, qui portent des espèces de... Je décrirais ça comme des petits cargos, qui peuvent être délivrés en fait sur la cible qui est la tumeur et qui sont chargés en médicaments. Ils ont également dans leur ils transportent également des particules qui peuvent par exemple via la résonance magnétique nucléaire créer une image.
Ah oui.
Mais quand on crée cette image en utilisant un champ de façon astucieuse sur ces particules-là, on peut créer un échauffement local qui peut permettre de faire un traitement par hyperthermie sur la tumeur. Mais en même temps, comme ils sont chargés du médicament et que la tumeur a été ciblée...
Donc ça a plusieurs effets possibles.
Voilà, ils peuvent permettre de libérer un médicament. Bon, et là, en ce moment, il y a énormément d'équipes. Je pense que ce sont des systèmes qui, je le souhaite, seront développés dans les 10-15 années qui viennent.
Formidable, ça.
Et on arrivera, c'est ce qu'on appelle la terrasse gnostique, puisqu'on couple à la fois le diagnostic, l'imagerie et le traitement. Puis ça pose énormément de questionnements, et c'est vraiment un terrain d'entraînement pour le chimiste qui est absolument fabuleux, parce que ce sont des matériaux complexes dans lesquels il faut contrôler tout, la taille, les types de fonctions, le positionnement de ces fonctions à différentes échelles, la compatibilité, la biocompatibilité. Évidemment, il y a tous les tests à faire, il ne s'agit pas de lâcher ces objets-là dans la nature, mais bon... Ce sont des objets prometteurs et passionnants.
Pourriez-vous nous expliquer ce que vous faites quand vous étudiez les mécanismes de formation des nanomatériaux inorganiques et hybrides, de la molécule au matériau final, Clément Sanchez ?
En fait, cette démarche, en fait, c'est une démarche qui a été toujours, je dirais, l'une des démarches, je dirais, importantes dans la stratégie du laboratoire et dans, par exemple, dans les stratégies qui avaient été développées par mon prédécesseur qui était Jacques Livage.
Oui.
C'est-à-dire d'essayer d'analyser. C'est une démarche qui ne se faisait pas. Et dans ce sens-là, le laboratoire, l'équipe, je dirais, nous avons été novateurs. C'est une démarche qui ne se faisait pas. En général, on créait un matériau, on regardait le matériau final et on étudiait ses propriétés. Éventuellement, on revenait sur le mélange initial. Et donc, justement, de suivre tout le matériau au cours de toutes ces étapes de formation, ça donne une lecture qui est beaucoup plus fiable.
Ça permet quoi, par exemple? D'affiner le matériau, c'est ça?
Ça permet de mettre en évidence quels sont les endroits, je dirais, par exemple dans le procédé de fabrication, qui sont déterminants. Parce qu'en fait, dans l'esprit des gens, un matériau, bon, globalement, ça peut être une pièce et puis une composition chimique. Alors qu'un matériau, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est issu, finalement, d'une réaction chimique, donc de l'association d'atomes, soit par des méthodes douces, soit par des méthodes, je dirais, de plus haute température. Mais, en fait, les qualités du matériau, sa structure finale, ses fonctionnalités, son efficacité, en un mot, vont essentiellement dépendre non seulement de cette chimie, mais également du couplage entre cette chimie et la façon de le faire.
Ah oui, oui, oui.
Pour comprendre, il faut arriver à suivre, en fait, avec des outils modernes, des techniques de caractérisation moderne multiples qui sont énormément développées dans les 20 dernières années. Il faut justement arriver à analyser toutes ces étapes de formation, dérouler finalement le film image par image pour arriver à mieux comprendre, à comprendre les endroits qui sont importants pour pouvoir arriver à faire les modifications au bon moment et obtenir des matériaux que l'on souhaite sur mesure. Bon, on rêve, c'est du sur mesure. Quelques-uns peuvent être faits sur mesure, mais on n'en est pas encore là. On ne peut pas négliger le couplage entre une réaction chimique et son procédé lorsqu'on est en sciences des matériaux.
Vous dites, Clément Sanchez, vouloir développer une véritable ingénierie bio-inspirée.
Bio-inspirée, ça veut dire que la nature est un modèle, elle sait faire des tas de choses que nous ne savons pas encore faire. Je crois que la première qualité d'un chercheur, c'est l'humilité. Et donc il faut rester humble finalement devant ce qui est fait dans le monde naturel. Par contre, arriver à comprendre ou à faire des parallèles, parce que les approches ne sont pas toujours bio-inspirées, c'est souvent également des parallèles entre des modes de construction que nous avons trouvés en laboratoire et des modes de construction qui existent dans la nature. Ça permet en fait de renforcer notre connaissance, renforcer nos outils aussi bien fondamentaux qu'expérimentaux pour justement arriver à construire ces matériaux un petit peu comme on le souhaite.
En fait, c'est vrai que la nature est aussi une usine de transformation absolument extravagante, un immense laboratoire.
Oui, oui, tout à fait. Donc, dans la leçon inaugurale, j'avais pris deux exemples, en fait, pour montrer ce que pouvait être une démarche bio-inspirée. J'avais pris l'exemple, en fait, du cuticule des crustacés type crabe, où essentiellement, de façon assez simpliste, c'est un ensemble avec contenant des biopolymères et de la craie, du carbonate de calcium. Et la construction de ces carapaces se fait parce que la partie biologique, qui est en fait une partie organique, la partie biologique, les composantes biologiques s'organisent parce qu'il y a des règles physico-chimiques qui font que quand les objets ont une certaine forme et une certaine concentration, ils peuvent s'organiser sous forme d'assemblages un peu comme des cristaux liquides. Et que ces assemblages, finalement, ont une organisation, mais également des interstices. Et dans ces interstices procurent finalement l'espace qui permet la minéralisation, par exemple, du carbonate de calcium. Et donc, le processus de formation, c'est, en quelques mots, c'est le couplage entre une construction à partir de matières organiques qui s'auto-assemblent en cristaux liquides et une minéralisation qui a lieu dans des conditions de température ambiante. Et donc, la plupart, par exemple, des matériaux poreux, à porosité contrôlée, en particulier avec des porosités de petite taille, sont construits également en suivant finalement des stratégies qui sont analogues. Au lieu d'utiliser en fait des biopolymères pour former des cristaux liquides, les chercheurs utilisent des polymères plus simples ou des molécules telles que les molécules de savon qui ont des propriétés analogues, c'est-à-dire qu'elles s'assemblent en micelles et ces micelles, lorsqu'on les concentre, donnent des phases cristalliques liquides. Et du côté minéral, au lieu de précipiter ou de former de la craie du carbonate de calcium, à ce moment-là, le chimiste a tout le tableau périodique pour faire des réactions de condensation minérale qui peuvent être simplement de créer de la silice par des réactions de polymérisation minérale, hein, non pas organique, qui ont lieu à température ambiante. Et lorsque l'on enlève finalement la partie micellaire et savon, eh bien, comme les deux réseaux sont interpénétrés l'un dans l'autre et avec une organisation qui correspond à l'organisation observée dans les milieux micellaires, eh bien, vous enlevez l'une des composantes, ce qui fait qu'il vous reste un orifice, un trou, un port. Et ce port est parfaitement calibré, puisqu'on connaît les règles physico-chimiques, et parfaitement organisé.
J'ai lu dans votre leçon inaugurale quelque chose qui m'a passionné sur la feuille de lotus.
Oui.
Alors, est-ce que vous pourriez...
Un exemple que j'ai cité dans la leçon inaugurale, mais qui a été développé, je dirais, maintenant...
L'imperméabilité et l'hydrophobie de la feuille de lotus.
Ça a été développé on a travaillé sur des revêtements hydrophobes, mais également ça a été développé par de nombreuses équipes dans le monde. Ça a été développé au niveau industriel. Maintenant, en fait, c'est l'analogie entre la feuille de lotus qui récupère cette hydrophobie, c'est-à-dire que l'eau ne mouille pas sur les feuilles de lotus. Et ceci est lié finalement à une texture tout à fait particulière qu'on observe en utilisant par exemple un microscope de résolution plus haute qu'un microscope optique, mais on la voit très très bien. Et la surface en fait de cette feuille texturée est également composée de molécules qui n'aiment pas l'eau. Et la conjugaison finalement de cette texture qui en fait emprisonne un petit peu d'air et de cette réponse de la surface qui n'aime pas l'eau crée finalement des systèmes qui n'acceptent pas du tout l'eau, qui la rejettent avec des angles de mouillage. En fait, quand vous mettez une goutte d'eau sur un nénuphar ou sur une surface qui peut être faite de façon analogue par synthèse, eh bien vous voyez, on a l'impression que c'est une bille qui est posée sur un seul point. C'est-à-dire que ça ne mouille absolument pas la surface.
Et quels sont les matériaux imitant cette hydrophobie
assez facilement par synthèse, c'est-à-dire que
fabriqué à la nénuphar en quelque sorte.
Ça a déjà été fait. Je crois qu'il y a eu pas mal de développement industriel. En fait, on peut faire une gravure dans un morceau de verre ou d'un autre composé en répétant le motif du nénuphar, mais de façon grossière. Ce n'est pas la forme du motif qui compte. En fait, ce sont les espacements et la texture.
Donc les rapports.
Voilà, les rapports. Et dans un second temps, on peut recouvrir justement par une méthode de type chimie douce avec un précurseur qui va polymériser avec une fonction hydrophobe qui va avoir le bon goût de se tourner vers l'air. Et puis voilà, le tour est joué. Donc ça, c'est l'exemple le plus simple. Mais il y a des exemples beaucoup plus intéressants qui ne sont pas dans la leçon inaugurale. Ce sont des matériaux que nous essayons de développer en ce moment qui, en fait, reprennent les concepts du byssus des moules, par exemple. Vous savez que le byssus des moules, c'est un matériau qui a des propriétés mécaniques absolument extraordinaires. Et la moule peut s'auto-réparer. Quand vous regardez la chimie du système associé au byssus, ça peut être compliqué. Donc, si je vous résume un petit peu avec des images, en fait, vous avez des polymères, des biopolymères qui forment des hélices, des triples hélices, c'est du collagène. Mais bon, c'est mou tout ça, donc il faut arriver à leur donner une certaine tenue. Donc en fait, il y a des parties qui sont beaucoup plus contraintes, qu'on appelle des zones réticulées. Et en bout de ces zones réticulées, d'un filament, en fait, vont se trouver des zones qu'on va appeler des zones sacrificielles, où se trouvent certaines fonctions organiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui ont le bon goût de s'accrocher à certains cations, à certains métaux. Et le type de liaison qui est engagé avec ces cations sont des liaisons qui ont une certaine dynamique, c'est-à-dire qu'elles vont, elles reviennent, etc. Donc en fait, la moule s'auto-répare. En fait, d'abord, il y a cette combinaison de zones élastiques et de zones plus dures qui donne finalement l'intérêt des propriétés mécaniques. Et puis, il y a ces zones de fragilisation qui peuvent casser à certains moments, mais qui peuvent également se reformer. En fait, il faut lâcher du lest pour éviter les ruptures définitives. Ça, c'est quelque chose que nous savons tous. Donc, au laboratoire, avec une collègue, Laurence Rezès, nous avons en fait mis en œuvre un petit peu des stratégies analogues, mais avec des matériaux de synthèse, en construisant finalement des matériaux avec des zones élastiques. Et puis, il faut quand même que le matériau tienne. Donc, on le réticule avec des zones dures qui sont minérales. Donc, c'est vraiment un hybride. Mais sur les zones de réticulation, comme on a une très bonne connaissance de la chimie, de cette chimie-là et des interfaces, on s'est arrangé pour justement avoir des zones fragiles, qui sont des zones simplement contrôlées par des liaisons, je dirais, électrostatiques. Et on obtient également la même chose, c'est-à-dire que vous coupez le matériau, vous le recollez, vous attendez, comme la moule, elle attend quand même quelques semaines avant de se réparer, hein, c'est pas immédiat. La nature a toujours du temps, alors que l'homme en a, est toujours pressé. Donc, et vous obtenez un matériau qui a à peu près 80% des propriétés mécaniques initiales.
C'est formidable.
Et si vous voulez aller plus vite, ben vous chauffez un petit peu, pas très haut, à 90 degrés, et en 2 heures, vous récupérez à nouveau l'essentiel des propriétés mécaniques de ce composite hybride.
Extraordinaire.
Mais en fait, c'est ce
là,
qu'on
là, c'est vraiment, il y a des perspectives, hein, en médecine, par exemple, je pense que...
Il peut y avoir des perspectives. Là, pour être très honnête, en fait, ce sont plutôt des composés qui sont modèles, qui nous permettent de valider, finalement, si on a bien compris les concepts. Mais il est clair que derrière les matériaux qui seraient auto-réparables ou auto-cicatrisables, ouais, il y a énormément de perspectives intéressantes. Mais pour l'instant, on en est au niveau de comprendre et de créer des parallèles entre les concepts de certains matériaux de la nature. Alors, il y a quand même le concept, il y a quand même un paramètre qui est important, c'est le paramètre temps.
Oui.
Nous, on est toujours pressés. Alors que c'est vrai que la nature, elle, se répare, mais elle prend un certain temps. Et je pense qu'il faut quand même aussi qu'on réfléchisse dans toutes nos actions aux paramètres de temps.
Si vous voulez bien, on va peut-être dire quelques mots des cours que vous avez donnés depuis que vous êtes au Collège de France. Est-ce que vous pourriez nous dire alors quels sont les enjeux du cours que vous avez donné en 2010-2011 qui s'intitule « Une courte histoire des matériaux hybrides, un mariage de sable, d'argile et de couleurs ».
C'était un cours qui m'a permis de faire un historique des matériaux hybrides. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la première qualité d'un chercheur, c'est la créativité, c'est l'imagination, c'est la rigueur, mais c'est également l'humilité. Et lorsque l'on regarde les matériaux hybrides à travers les âges, on s'aperçoit que même s'ils étaient faits par hasard et par Noah, ou comme disent les anglo-saxons, il y avait déjà des matériaux hybrides. Donc, et ces matériaux hybrides étaient faits avec des matériaux les plus simples. Alors, il y a 2 exemples que vous connaissez. Vous ne savez peut-être pas que ce sont à la base des matériaux hybrides, mais vous les connaissez. Ce sont les fameuses porcelaines chinoises.
Ah oui,
qui en fait sont composés d'argile et d'excréments en fait d'urine, de l'urée, donc qui venaient s'intercaler dans les argiles. Donc vous aviez un anneau composite, et c'est en fait ce processus d'intercalation dans l'argile qui permettait finalement la plasticité, la mise en œuvre et la meilleure tenue au feu de ces céramiques. Et donc ça a été fait depuis très très longtemps. Donc c'était un des exemples que j'ai cité dans mon cours pour montrer que il y a un deuxième exemple qui est assez intéressant. C'est celui du bleu Maya, qui à nouveau a une capacité de conservation relativement exceptionnelle pour un pigment bleu. Et en fait, le bleu Maya, en fait, c'est à nouveau une argile d'une autre catégorie qui ne correspond pas à celle des faïences chinoises, dans lequel finalement un bleu indigo a été inséré. Et justement, c'est le fait que ce bleu est protégé par une matrice minérale qui est l'argile, qui donne en fait ses propriétés de stabilité à long terme dans des températures relativement élevées. Les zones Maya sont quand même des températures, ce sont des zones où le climat est relativement chaud, très humide. Et donc, ça a permis aux Maya d'avoir des bleus qui se conservaient de façon étonnante, en fait, en fonction du temps. Et donc, ce sont déjà des matériaux hybrides qui ont été faits, je dirais, bien avant notre monde moderne, l'utilisation de toutes nos méthodologies, de toutes nos techniques.
Oui, de façon empirique.
Oui, tout à fait, c'était de façon empirique, mais il n'empêche que ce sont des composites à une toute petite échelle. Donc, en fait, mon cours retraçait, en partant de ces exemples-là, un peu l'historique des matériaux hybrides, et ensuite l'historique au cours du XXe siècle, en particulier, de quelle façon les communautés ou les intérêts vers les matériaux hybrides se sont portés, avec finalement un impact assez important de certains industriels qui, pendant les périodes, je dirais, juste avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui ont développé finalement des matériaux qui permettent de faire ce qu'on appelait les silicones plus tard.
Oui, oui.
Qui permettaient finalement de faire des couplages intéressants entre du verre et des polymères. Et en fait, ce sont les industriels du verre qui ont commencé à s'intéresser à ces hybrides, simplement parce qu'ils ont vu la menace, en fait, du développement des polymères par rapport au verre, et ils ont voulu créer justement une interface pour valoriser leurs matériaux. Et donc c'est ceci qui a commencé à créer finalement les premières réflexions qui étaient industrielles, donc assez fermées à l'époque, puisqu'en général, les industriels, pour des raisons de confidentialité, ne communiquent pas trop. Et puis ensuite, il y a eu quelques coupures. Et dans les années, on trouve des brevets dans la littérature, mais qui sont, ce sont des travaux en très petite quantité. Et la grande évolution vers les matériaux hybrides tels que on les décrit maintenant, en fait, a eu lieu vers la fin des années 70, au début des années 80, simplement parce que il y avait toute une communauté de céramistes et de verriers qui cherchait finalement, parce qu'il y avait c'était le moment où il y a eu les problèmes pétroliers, donc on cherchait des méthodes d'élaboration de matériaux par des températures plus basses. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de chimie douce. Et ils cherchaient justement des méthodes pour élaborer des matériaux céramiques ou verts par des méthodes de plus basses. Donc ils ont utilisé les méthodes de la chimie douce, des méthodes que l'on appelle des méthodes de type sol-gel. Et donc ces verriers et ces céramistes ont créé en fait un mouvement scientifique, une certaine communauté, dans laquelle au début n'étaient pas du tout impliqués les chimistes moléculaires. Et je pense que l'une des grandes percées qui a pu être faite dans ces domaines, c'est que maintenant, c'est plutôt la moitié des années en 80-85, il y a eu en fait un métissage de ces communautés, les céramistes, les chimistes du verre, les chimistes moléculaires, les collègues des polymères, qui ont commencé finalement à créer des colloques et des discussions, et à commencer à s'intéresser les uns et les autres aux activités des uns et des autres.
Et comment ça a pu se mettre en place? Comment un chimiste, à un moment donné, s'est dit, tiens, c'est intéressant ce qui se passe chez les céramistes?
Parce que je pense que les scientifiques sont à la base curieux, et qu'il y avait un mouvement. Le fait de pouvoir utiliser des précurseurs moléculaires et de les faire polymériser par des voies minérales à température ambiante, tout de suite les chimistes, en particulier de l'organométallique, se sont dit, on est dans des conditions qui sont parfaites pour que nous puissions développer notre chimie, et nous, la chimie, on connaît très bien, et ils ont commencé à intervenir finalement dans ces colloques, mais de façon, je dirais, à dose homéopathique au départ, et puis le gel a pris, je dirais. Et en fait, il y a vraiment toute une école de pensée, mais une véritable école de pensée en sciences de matériaux. Mais on a vraiment parlé, à partir de cette époque-là, de chimie des matériaux. Il y a eu des journaux qui se sont créés à la fin de cette période-là, parce que justement, il y avait une fusion, il y a eu un métissage, en fait, de ces différentes communautés qui ne se parlaient pas et qui n'échangeaient absolument pas. Et donc, c'est ce qui a donné naissance, finalement, au développement. Les matériaux hybrides sont en développement. Les matériaux hybrides, que ce soit organique, minéral ou biologique minéral, mais également tous les développements qui concernent les synthèses de matériaux, je dirais, nanostructurés ou autres, qui sont faites par des méthodes ascendantes. La méthode ascendante, c'est simplement de la molécule au matériau, en traduisant ça de façon très simple. Eh bien, tout ça est né, en fait, de cette période, de ce bouillonnement des années, début des années 80-85.
De rencontres, au fond, voilà. Inattendues, quoi.
Oui, bon, certaines étaient inattendues, d'autres ont été provoquées, mais bon... C'est vraiment je trouve que c'est un exemple assez intéressant de l'apprentissage par les autres et de pouvoir faire des ruptures justement par le couplage entre différents types de connaissances.
Clément Sanchez, chimie douce et polymère, un mariage réussi. Vous êtes tout le temps dans le mariage, puisque évidemment, les matériaux hybrides,
c'est du métissage.
C'est du
mariage, c'est du couplage.
Voilà.
Oui. Oui, bon, là, justement, c'était un petit peu pour montrer l'interface entre le monde des polymères, parce que en fait, dans les matériaux hybrides, on couple des polymérisations minérales soit à des molécules organiques, soit à des polymères organiques. Et lorsque l'on regarde le domaine, je dirais, plus appliqué de ces matériaux-là, à une grande partie des applications qui sont concernées, utilisent finalement la synergie entre toutes les qualités des polymères organiques, et on est entouré de polymères organiques, et vous voyez bien qu'ils sont très utiles, et les qualités du monde minéral. Et donc c'est pour ça qu'il m'a semblé important et intéressant de faire un ensemble de cours justement sur cette interface entre les polymères au sens large, polymères de synthèse, biopolymères, et polymères minéraux créés par les méthodes, de la chimie douce.
On continue, si vous voulez bien. Cours 2012-2013, la chimie mésoscopique. Alors ça, je n'ai aucune espèce d'idée de ce que ce mot peut signifier. Du nanomatériau au mésocristal. Alors
oui.
Voilà, mésoscopique, c'est...
Mésoscopique, c'est une échelle, en fait.
Ah oui, d'accord.
Qui correspond à l'échelle entre... le début, ou la fin plutôt, la limite du macroscopique. Pour nous, la limite du macroscopique, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous avez un film, un revêtement très lisse, et vous avez une petite aspérité. Votre ongle, votre doigt, vous imaginez qu'elle sent cette aspérité à quelle taille? Vous ne savez pas.
Ah oui.
Eh bien, c'est en fait, quand vous arrivez à des tailles de l'ordre du micron, vous le sentez. Au-delà, bien entendu, au-dessus. Donc c'est un petit peu la borne... En dessous du micron, c'est la bande supérieure. Et vers la bande plus basse, c'est typiquement l'échelle de l'ordre de quelques nanomètres. Et donc l'échelle mésoscopique, c'est toute cette échelle intermédiaire entre quelque chose qui est... ou une sensation macroscopique, ou un matériau macroscopique.
Enfin, quelque chose qu'on peut sentir,
voilà,
de toute façon.
Voilà, à quelque chose qui est vraiment pratiquement une échelle moléculaire et nanométrique. Et de nombreuses structures biologiques, de nombreux assemblages, justement, tirent leurs propriétés de cette de construction à cette échelle mésoscopique. Et donc, dans le cours, bon, j'ai parlé forcément de nanomatériaux, j'ai parlé des assemblages, en fait, entre nano-objets. Et en particulier, dans les derniers cours, j'ai énormément développé... Les constructions de systèmes de type biomorphe, c'est-à-dire ce sont des matériaux de synthèse qui ressemblent au niveau des formes à des matériaux que l'on trouve dans la nature. Ça ressemble à des vers de terre, à des feuilles, à des fleurs. Récemment, vous avez eu un article publié dans Science qui reprenait finalement ce type d'études. Donc des morphologies absolument extraordinaires, mais qui sont faites simplement par synthèse de composés minéraux, mais les réactions utilisées sont très simples. C'est la formation de craie et la formation de verre de silice. Et tout ça se met en compétition, en synergie, et l'une bloquant l'autre, on arrive à construire finalement ces édifices qui sont au niveau de l'esthétique. Et donc, dans les étapes intermédiaires, il y a des constructions à l'échelle mésoscopique. C'est pour ça que j'ai illustré mon cours avec ce type d'exemple, qui d'ailleurs soulève un certain nombre de problèmes vis-à-vis d'autres disciplines, parce que le fait de montrer que vous pouvez avoir des formes en spirale, des formes en forme de feuille ou en verre, de terre, sans aucune matière biologique, ça remet en cause certaines analyses qui étaient basées sur la forme dont la forme en fait permettait de conclure en fait que l'origine en fait de ces matériaux-là avait une origine biologique, et ça a été énormément utilisé, alors que ces travaux plus récents démontrent qu'on n'en a pas besoin. Mm-hmm. Donc c'est simplement une contradiction de plus qui fera avancer finalement la science.
Est-ce que vous pourriez nous dire ce que fait votre laboratoire, qui le compose et avec qui vous travaillez au fond? Je pense que évidemment vous travaillez avec tous les chimistes qui sont au Collège de France ailleurs naturellement. Mais avec qui travaillez-vous encore? Est-ce que vous avez des contacts avec les biologistes?
Oui, alors donc
est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment?
Alors
vous...
au sein du laboratoire, c'est un laboratoire où il y a énormément d'équipes et il y a énormément de collaboration. Donc en fait, j'anime une équipe en particulier qui s'appelle l'équipe matériaux hybrides et nanomatériaux. Et donc il y a un certain nombre de collègues qui sont très compétents, qui mènent également leurs recherches en propre, indépendamment du responsable. Et ça, c'est très bien. Je pense qu'il faut avoir aussi de l'indépendance en recherche. Donc, il y a énormément de collaborations en interne. Il y a des collaborations importantes au niveau national. Par exemple, on a un ensemble de collaborations avec les collègues de Strasbourg qui disposent, par exemple, d'outils de microscopie assez exceptionnels qui permettent d'analyser à des toutes petites échelles des objets en trois dimensions et de faire l'analyse des éléments avec des résolutions très très bonnes. Donc on a des collaborations et au niveau international, j'ai d'importantes collaborations, je dirais en Europe en particulier, avec des collègues allemands, avec des collègues espagnols.
Est-ce qu'on est très en pointe, nous autres Européens, sur des recherches de ce genre?
L'Europe, oui, je pense que maintenant, je dirais que ces recherches... l'Europe a été, pour tout ce qui est, je dirais, chimie douce et matériaux hybrides, l'Europe et en particulier la France a été vraiment le berceau.
Ah oui.
C'est vraiment de là qu'il y a eu vraiment la création de cette école de pensée, avec forcément participation de nombreux collègues au niveau national et international, mais ça a été quand même un petit peu le noyau dur. Et on est en pointe, oui, mais bon, je dirais que maintenant, c'est quelque chose qui s'est énormément développé. Il y a une concurrence qui est très, à la fois intéressante et très dure. La plupart des laboratoires de chimie qui s'interfacent avec les matériaux utilisent finalement ces méthodologies.
Mmh. Il y a évidemment beaucoup de d'enjeux financiers,
oui.
Par exemple.
Hein. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que les enjeux financiers sont assez conséquents et aussi les modes, les modes de financement créent aussi des modes au sens de la mode. Et finalement, on voit des laboratoires travailler pendant 5 ou 10 ans sur une thématique de façon relativement monolithique et puis ensuite vers une autre thématique en fonction des modes de financement. La chance qu'on a eue, en particulier au laboratoire de chimie de la matière condensée, c'est qu'on a toujours eu des équilibres raisonnables, je dirais, entre la mode et entre ce qu'on avait envie de faire. Et ça, c'est important aussi de garder finalement une certaine indépendance par rapport à la mode.
Bah, c'est la seule condition pour trouver quelque chose. En quelque
voilà, et donc je pense que même au niveau national, au niveau français, je pense que ça a été une des chances justement, en particulier dans ces domaines qui peuvent être très très labourés au sens où il y a énormément d'équipes qui peuvent travailler, eh bien c'est d'avoir justement des espaces de liberté pour faire en parallèle des choses qui sont un petit peu différentes de ce que font les autres.
Est-ce que vous pouvez nous dire vers quoi vous dirigez votre cours de l'an prochain? Est-ce que vous avez déjà une idée
de... Oui, alors le cours de l'an prochain, justement, ça sera un cours qui sans doute se fera pendant 2 années, parce que c'est un sujet qui risque d'être un peu long, qui va s'intituler « Les interfaces, chimie des matériaux, biologie, médecine ». Et donc,
ça, c'est très passionnant.
Je vais essentiellement centrer mon cours. Je pense que les premiers cours vont être centrés sur justement une description des aspects biomimétiques, bio-inspirés. Ensuite, je vais sans doute passer à les centrer de façon plus précise sur les matériaux pour l'imagerie, l'imagerie magnétique, l'imagerie optique. Donc là, il y a énormément de développement. Il y a aussi, ça sous-tend également un certain nombre de problèmes et de précautions à prendre. Et donc, ça fera l'objet de sans doute de cours. Et je finirai sans doute sur justement ce que je venais de vous dire, les réalisations les plus avancées au niveau de la construction sur les fameux vecteurs thérapeutiques hybrides qui ciblent, etc. En restant vraiment du côté de la construction. Et je n'aurai pas la prétention de dire que c'est des systèmes qu'on va pouvoir utiliser, parce qu'il y a encore beaucoup trop de problèmes et de verrous.
Non, mais enfin, il y a des perspectives quand même.
Mais
magnifique.
Ce qui me plaît dans cette thématique, ah, en ouais. tant que chimiste, parce que le chimiste, c'est quand même un architecte qui aime bien jouer avec la matière, qui aime bien construire, c'est que finalement, c'est un terrain de construction qui est absolument fabuleux. Et je montrerai un certain nombre d'exemples en m'appuyant sur quelques études du laboratoire et de nombreuses études qui ont été faites à l'extérieur, d'objets qui sont absolument extraordinaires au niveau du contrôle, en fait, des fonctionnalités et de la structure.
Sanchez, vous travaillez dans un milieu très ouvert. Les professeurs ont chacun une discipline différente. Est-ce que le chimiste que vous êtes est sensible justement à ces combinaisons
et ces... Oui, tout à fait. En fait, ce qui m'a vraiment séduit en arrivant au Collège de France, d'une part, c'est la taille humaine du Collège de France. Là, c'est une structure qui est relativement petite, avec une très grande diversité de disciplines. Et donc, ça veut dire que c'est un lieu d'échange possible, où les interfaces entre les différentes disciplines peuvent se créer. Et ça procure finalement une richesse relativement exceptionnelle. Également, ce que j'ai senti en arrivant au Collège de France, c'est que il n'y avait pas d'esprit de compétition. Mal placé, je dirais. C'était vraiment un milieu dans lequel...
Collégial.
C'était collégial, c'était la connaissance qui était importante. Et en particulier, lorsque j'ai rencontré en fait mes différents collègues avant d'avoir été élu, nous avons eu un certain nombre de discussions. Et ne serait-ce que sur le mot « hybridation », vu par les différentes disciplines littéraires, des collègues qui étaient experts dans les aspects juridiques ou économiques. Ces conversations étaient vraiment passionnantes.
Oui, parce que le mot hybride, au fond, vous en avez découvert la diversité, la polysémie.
Oui,
la
en fait, les interprétations, tout du moins, en fonction des domaines. Et, bon, mais c'est cet exemple-là que j'ai choisi parce que c'était l'exemple qui me touchait de façon plus directe. Mais en fait, c'est vrai pour des tas d'autres... discussions ou échanges qui ont lieu dans le cadre de cette structure qui est totalement exceptionnelle. Le collège est ouvert à tout le monde. C'est vraiment une structure unique au monde. Et je pense que les gens ne le réalisent pas, que c'est vraiment une des chances, en fait, de se trouver en France, justement, avec des structures qui sont absolument merveilleuses et exceptionnelles.
Clément Sanchez,
Leçon inaugurale, prononcée le 10 février 2011.
Albert Einstein disait « Dans un monde où tout s'accélère, le temps a anéanti l'espace. » Et c'est un peu le sentiment qui m'habite, notre espace créatif se confine. Et comme notre monde professionnel et relationnel n'est pas nanométrique, nous sommes dans un monde qui se fige, géré par de nombreux contrôleurs et indicateurs. Pour finir, et puisque nous vivons dans une société soumise aux indicateurs de toutes sortes, je prendrai la liberté de proposer un nouvel indicateur 3H. Je vous rassure, cet indicateur n'est pas radioactif et n'a rien à voir avec l'isotope de l'hydrogène nommé tritium. Le premier H pour humanisme, en hommage à Guillaume Budet, qui en 1530 participa très activement à la création du Collège d'électeurs royaux, le futur Collège de France. Le second H pour humilité. L'humilité est, de mon point de vue, une qualité importante, en science également. Le bleu maya est un matériau hybride. Les mayas élaboraient déjà des hybrides en insérant des colorants, comme le bleu indigo, dans des argiles telles que la paligorskite. L'hybride résultant se caractérise par une forte coloration bleue, mais surtout, cette coloration présente une meilleure stabilité aux agressions climatiques, telles que les températures et humidités élevées. La coque minérale protège la molécule organique très colorée mais fragile. C'est pourquoi de nombreuses fresques mayas, telles que celles du temple de Bonampak au Mexique, présentent des bleus relativement bien conservés. Les artistes mayas et leurs pigments au Xe siècle, les potiers chinois au VIIe siècle lorsqu'ils élaboraient de fines porcelaines, les Grecs lorsqu'ils blanchissaient la laine et le linge plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, tous utilisaient des nanocomposites organominéraux obtenus par intégration de molécules organiques dans des argiles. Quelle leçon d'humilité pour les chercheurs qui, comme nous, travaillent depuis plus de 30 ans dans la thématique associée à la chimie des matériaux hybrides. Le troisième H va nous permettre de nous rapprocher de la fin de cette première leçon sur une note d'humour, et pour cela, je souhaiterais citer Boris Cyrulnik. Chaque publication scientifique ne sert qu'à poser une dizaine de questions. Chaque découverte scientifique est passionnante parce qu'elle ouvre un univers de questions. Si les questions vous angoissent, ne soyez pas scientifique. Nous sommes en 2011, année internationale de la chimie. Les chimistes qui sont, de mon point de vue, à la fois les architectes mais aussi les maçons de la matière, ne sont pas angoissés. Je suis très optimiste. Grâce à notre volonté et nos recherches, Isaac Newton pourrait dire aujourd'hui « Les hommes sont assez mûrs pour construire de nombreux ponts ». Il est vrai qu'un optimiste peut se tromper, mais c'est souvent lui qui a raison.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Avec ce soir, Clément Sanchez, titulaire au Collège de France de la chaire de chimie des matériaux hybrides. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour écouter un entretien accordé par Stanislas Dehaene, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Et nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.